Info Matin, Nicolas Legrand.
L'Union des pompiers calédoniens dénonce des actes de caillassage. Ils ont de nouveau été victimes de jets de pierre hier au Mont d'Or. Un appel à la responsabilité est également lancé à la population pour éviter la multiplication des feux de brousse. Actualité politique, Génération NC appelle à former une majorité au gouvernement mais aussi au Congrès avec l'Unipalika. L'objectif du parti de Nicolas Metzdorf, lancer les réformes et stabiliser les institutions. Mayotte en a pris plein la gueule, les mots du ministre des Outre-mer Manuel Valls après le passage du cyclone Dikiledi. La population doit encore rester confinée mais il n'y aurait pas de victimes à déplorer. Le sport, du tennis et les Français reçus 4 sur 5 à Melbourne. Hugo Humbert, Quentin Alice, Hugo Gaston et Arthur Fils se sont qualifiés pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. En revanche, c'est terminé pour Lucas Pouille. En voile, Charlie Dalin devrait battre le record sur le Vendée Globe. Après 63 jours en mer, le skipper de Massif Santé Prévoyance est à seulement 800 km de l'arrivée. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps est plutôt ensoleillé aujourd'hui. Quelques averses sont toutefois possibles au Loyauté. Les températures maximales sont stationnaires, proches des normales de saison, entre 29 et localement 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, un premier drame sur nos routes cette année.
Oui, l'accident est survenu hier à Saramea. Le conducteur d'un véhicule qui circulait sur la RP5 a perdu le contrôle et quitté la chaussée. Quatre personnes étaient à bord. Le passager avant a été éjecté hors de l'habitacle. Mais l'accident s'est produit dans ce que l'on appelle une zone blanche, c'est-à-dire sans réseau téléphonique pour prévenir les secours dans les plus brefs délais. Les autres personnes à bord de la voiture ont donc dû transporter elles-mêmes la victime gravement touchée jusqu'au centre de secours de La Foy. Arrivé sur place vers 15h40, l'homme est finalement décédé peu de temps après sa prise en charge. Les trois autres passagers légèrement blessés ont été évacués vers le Medipôle. À la une de l'actualité également, je le disais, plusieurs incendies sont en cours sur le territoire et notamment dans le Grand Nouméa. Au cours de leurs interventions, les pompiers font par ailleurs régulièrement l'objet de caillassages, comme à Saint-Louis au Mont d'Or hier après-midi. Et l'Union des pompiers calédoniens tire aujourd'hui la sonnette d'alarme, Michael Juneski.
Oui, un ras-le-bol général, alors que ce week-end encore, les soldats du feu étaient appelés à intervenir, en plus de la surveillance du feu de Prony, pour des incendies à La Tamoa, avec des habitations menacées, à La Tontuta, dans le secteur de Kiemanto, en raison d'un écobuage mal maîtrisé, à Nouméa, au centre Raoul Folro, où un début d'incendie a dû être éteint à deux reprises, et encore à Saint-Louis, au Mont d'Or, où des pompiers sont intervenus dans l'après-midi d'hier pour un départ de feu de brousse dans le secteur de Lati et où ils ont été la cible de caillassage. Une situation devenue courante et que regrette l'adjudante Isabelle Marlier. Elle est secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens.
On a les activités courantes de tous les jours. Hein. On l'a bien vu dans l'actualité. Il y a eu des accidents de la route. Ce que vous ne voyez pas dans l'actualité, c'est toutes les interventions où on porte secours à la population pour les accidents à domicile ou les malaises ou ce genre de choses. En parallèle de cette déjà activité qui est assez dense en soutien au SAMU qui est en sous-effectif, eh ben on a une grosse activité incendie de feu de brousse, feu de forêt, pour souvent des motifs inconsidérés d'écobuage ou alors de barbecue mal contrôlé dans des zones où c'est interdit. Donc on voudrait faire appel à la population sur cette situation qui nous met tous en danger tous les jours. Et puis la sécurité. Hier, les collègues du Mont d'Or, en allant éteindre un feu de brousse, ont subi des caillassages. Ça, pour nous, c'est intolérable.
Aujourd'hui, les pompiers sont en manque d'effectifs, avec des personnels fatigués par des mois d'activités incessantes. Face au mauvais comportement, des débuts de feu par inconscience, malveillance et surtout des actes de violence à leur égard, et face à une population qui, de par son silence d'une certaine manière, consent et laisse faire la poursuite de ces faits de violence, comme par exemple à Saint-Louis ou dans les quartiers de Nouméa, eh bien les soldats du feu espèrent que les Calédoniens prendront conscience du problème qui pourrait se poser lorsque les secouristes ne pourront plus venir aider la population.
C'est déjà assez compliqué comme ça. On est un peu en réduction d'effectifs dans certaines communes. Il y a des pompiers volontaires qui acceptent des conditions d'activité avec des réductions de vacations. On a des communes qui sont à demi-salaire. On a consenti à un effort chez les pompiers volontaires pour pouvoir maintenir l'activité opérationnelle pendant la saison. Et en échange, on subit des caillassages. C'est pas acceptable. Les pompiers qui vont intervenir à Prony essuient régulièrement des caillassages avec les gendarmes à Saint-Louis en traversant. Et là, à un moment donné, je ne sais pas comment faire comprendre aux gens. Et en faisant ça, ben déjà, ils font peur aux pompiers, ils découragent les pompiers, et puis surtout, ben, ils ralentissent les secours et ils nous mettent en difficulté. Donc à un moment donné, quand il n'y aura plus de pompiers, ben, je ne sais pas comment les gens ils pensent qu'on va gérer la situation. L'Union alerte, les pouvoirs publics, mais surtout fait appel au bon sens de la population. Je pense qu'en matière de bêtises en Calédonie, on a fait le tour là depuis l'année 2024. Il faudrait peut-être qu'on prenne des résolutions pour 2025 pour arrêter un peu ça.
L'adjudante Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens. Je rappelle qu'au Mont-d'Or, les effectifs ont été déjà mobilisés les semaines précédentes pour l'incendie dans le secteur de la rivière de Prony qui a ravagé, on le rappelle au dernier bilan, près de 1700 hectares de végétation. Un feu parti d'un barbecue au bord de rivière.
Et on reviendra sur cette actualité dense en matière de feu de brousse tout à l'heure à 7h30. C'est en effet Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer Nouvelle-Calédonie pour le WWF qui sera notre invité du matin. Nous reviendrons avec lui sur les incendies qui touchent le sud de la Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année, mais aussi sur leurs conséquences environnementales. L'actualité politique et institutionnelle maintenant, il n'y a toujours pas de vice-président au gouvernement. Depuis l'élection d'Alcide Ponga à la présidence mercredi dernier, il n'y a pas eu de tentative d'élection d'un vice-président. Et à ce jour, aucune convocation n'est parvenue aux élus, ce qui signifie que les discussions politiques de ces derniers jours n'ont visiblement pas permis aux partis de se mettre d'accord. Rappelons que même sans vice-président, le gouvernement deviendra de plein exercice mercredi de cette semaine. Et c'est donc vendredi que les secteurs seront attribués, ce qui veut dire que le 18e gouvernement devrait être pleinement opérationnel à la fin de cette semaine. Et dans ce contexte, Génération NC salue l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, mais appelle à trouver une stabilité dans les institutions pour lancer les réformes nécessaires en Nouvelle-Calédonie. Le parti de Nicolas Metzdorf qui s'exprimait face à la presse hier, Mickaël Jeuneski.
Oui, Génération NC souhaitait faire un point global sur les perspectives que ces élus défendront en 2025 pour le territoire dans un contexte de crise sans précédent. Tout d'abord, concernant la gouvernance, il faut s'entendre sur une majorité avec l'UNI, car le calendrier va déjà contraindre le nouvel exécutif pour mener son travail dans un temps très court. On écoute le président de Génération NC, Nicolas Metzdorf.
On se félicite de l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, mais ça va être une présidence très courte, puisque les élections provinciales sont prévues au plus tard, en novembre 2025, et qu'il va falloir mener énormément de réformes. Donc on aura besoin de s'asseoir sur une majorité stable et forte, à la fois au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, on dit que cette majorité, elle ne peut pas se faire avec l'Union calédonienne. Cette majorité, elle doit se reposer sur l'UNI, qui est un parti politique indépendantiste modéré, qui n'a pas, un, participé aux émeutes du 13 mai, qui les a dénoncées, et deux, qui a travaillé étroitement avec nos membres du gouvernement sur le PS2R, le plan de relance de l'économie calédonienne. Et donc nous, on dit qu'il faut travailler avec eux plutôt qu'avec l'UC et la CCRT.
Dans un tout autre domaine, face à l'impact des événements de 2024 sur la population, Génération NC appelle à élaborer un nouveau modèle pour permettre à la Calédonie de s'en sortir sur le plan économique. Génération NC le dit, dans un avenir proche, l'assistanat ne sera tout simplement plus possible. Il faut, à court terme, soutenir les entreprises, le secteur privé et le monde du travail pour sortir de la crise. Et concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, le parti rappelle aussi que les partenaires doivent se remettre au plus vite autour de la table, car le calendrier l'impose. C'est ce que rappelle Nicolas Metzdorf avec un accord qui doit être trouvé d'ici le 31 mars prochain.
Retour maintenant sur cette cérémonie très forte en émotion samedi à Bouloupari. Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée pour commémorer les 40 ans de l'assassinat d'Yves Tual le 11 janvier 1985, alors que la Nouvelle-Calédonie traversait ce que l'on appelle les événements. Une cérémonie particulière cette année dans le centre du village, sur une petite place qui porte désormais le nom d'Yves Tual. Une plaque portant le nom de cet enfant de la commune a été dévoilée par Hervé, son père, et le maire de la commune, Pascal Vittori. Plusieurs personnalités politiques ont pris la parole. Le député Nicolas Metzdorf, Gilles Brial pour la province sud, Virginie Rufnac pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, et une prise de parole également d'Alcide Ponga, le président du gouvernement. D'ailleurs, il s'exprimait pour la première fois officiellement en public depuis son élection.
Alors que nous nous souvenons de ces événements tragiques, nous devons réaffirmer notre engagement collectif à ne plus jamais reproduire de telles violences. Notre diversité doit être notre force et non pas notre faiblesse. C'est seulement ainsi que nous pourrons honorer la mémoire de toutes ces victimes et bâtir une Nouvelle-Calédonie unie et prospère. Je tiens à rendre hommage à Pierre Frogier qui a initié ce moment de recueillement il y a plusieurs années de cela. Son engagement pour la paix et la réconciliation a ouvert la voie à ce dialogue essentiel entre nos communautés. En ce jour solennel, prenons ensemble l'engagement de faire vivre la mémoire d'Yves et de toutes ses victimes, non pas comme un symbole de division, mais comme un appel à l'unité.
La place Yves Tuelle a donc été inaugurée samedi matin. Elle se retrouve non loin de la mairie de la commune, en bordure de la RT1. Une place sur laquelle on trouve une stèle en hommage à cet enfant de la commune parti beaucoup trop tôt et dans des conditions qui auront marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'était il y a 40 ans, le 11 janvier 1985. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Maintenant, notez d'abord que cette semaine, eh bien, nous reprendrons certains de nos rendez-vous d'antenne. À retrouver par exemple demain notre magazine citoyen et jeudi les jeudis de l'économie. Notez également qu'à partir d'aujourd'hui, votre rendez-vous « Vous avez un avis » reprendra sa forme habituelle. Une première partie entre 7h05 et 7h25 et une seconde entre 7h45 et 8h. Alors si vous avez un avis, eh bien appelez-nous du lundi au vendredi au 25 46 46, le 25 46 46. Et puis aujourd'hui encore, nous poursuivrons notre série de rétro de l'année 2024. Après un retour sur une année écoulée en Nouvelle-Calédonie vendredi, place aujourd'hui au sport, en Calédonie, en métropole et dans le monde, dans nos éditions de la mi-journée, mais aussi de 17h45. Et voyons maintenant avec vous, Mickaël, ce qui fera l'actualité de la semaine qui débute avec un premier rendez-vous à signaler dès demain mardi.
Ouais, c'est en effet demain que sera donné le coup d'envoi de la préparation militaire air sur la base aérienne 186 lieutenant Paul Klein. Une vingtaine de jeunes venus de Calédonie mais aussi de Wallis et Futuna débuteront cette PMA. Demain, toujours, Johan Lecourieux, le maire de Dimbéa, débutera une tournée dans les centres de vacances de la commune. Vendredi, il entamera une série de visites dans les structures pour personnes âgées de Dimbéa. Notez encore que mercredi, le CESE se retrouvera pour une nouvelle séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen d'un projet d'avis concernant le fonds autonome de compensation en santé publique. Jeudi, ce sont les élus du Congrès qui se retrouveront pour une nouvelle séance publique. À l'ordre du jour, deux projets de délibération et deux propositions de vœux. L'une des propositions de délibération vise à modifier le règlement intérieur du Congrès. Par ailleurs, l'une des propositions de vœux est relative à la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Le lendemain, vendredi, les élus du Congrès se retrouveront à huis clos pour une commission plénière. Ils auditionneront des représentants du monde de l'agriculture sur notamment les risques de l'arrêt de certaines aides sur l'ensemble des filières. Enfin, notez que samedi, au chapitre politique, l'Union calédonienne tiendra un comité directeur à Moindou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-il urgent de faire venir des renforts sanitaires, notamment des infirmières de métropole? Si vous pensez que c'est urgent, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour une nouvelle question du jour. Enfin, retour sur un événement qui a rythmé le week-end écoulé. C'était un incontournable avec le marché de Mamie qui se déroulait hier à Farino. C'était le premier de l'année, Mickaël, et on a déjà assisté à une belle affluence.
Ouais, un rendez-vous phare pour la commune de la Côte-Ouest avec des produits du terroir et de l'artisanat pour le plus grand plaisir des visiteurs.
On s'est levé tôt pour venir exprès, comme c'est le premier marché de l'année. Donc on venait venir voir ce qu'il y a de nouveautés. Mais c'est surtout que moi, je suis à la recherche des produits qui se font rares aussi. Je suis contente de venir au marché de Farino parce que c'est ce qu'on ne trouve pas à nos mères.
Je viens chaque mois ici, je viens parce qu'en fait c'est dans la nature et je viens chiner, voir les produits frais, les produits locaux, des plantes surtout et les produits fabriqués localement quoi.
Oui, nous habitons ici et on vient régulièrement.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce marché ?
La diversité, mais surtout les produits salade de poulpe là. Les saucissons de cerf, ils sont très bons. La diversité dans les plantes. Puis il est tranquille, ce marché. On aime beaucoup ici.
Et Ghislaine Arly, l'organisatrice du marché de Mamie, souhaite redynamiser l'événement dans les mois à venir.
Là, on est en train de faire des réunions en ce moment parce qu'on voudrait aussi un peu innover, on voudrait un peu changer. Bon, on ne va pas tout changer, mais je veux dire, on a dit qu'on allait peut-être repenser un peu le marché, faire un peu des choses autrement pour redynamiser après tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on sent qu'il y avait quand même on a flotté un peu quelques mois, là, donc pour qu'on puisse repartir d'un bon pied. Donc on est en ce moment en pleine réflexion pour faire des choses. Voilà, et puis je pense que ça ira, j'espère, je reste très optimiste.
Le marché de Mamie à Farino, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois sur l'esplanade de la mairie.
Merci beaucoup Mickaël Juneski, il est 6h45, on va marquer une première pause dans ce journal et ensuite direction Mayotte après la publicité. Pas de victimes à ce stade, mais des dégâts importants après le passage d'un nouveau cyclone.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
Chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Sidaps à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
You by Kotex, une gamme de protection hygiénique qui répond à tous vos besoins. En janvier, pour le mois de la solidarité féminine, achetez vos protections hygiéniques You by Kotex et soutenez une jeune femme dans le besoin.
Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Aucune victime à déplorer à ce stade à Mayotte, selon les autorités. L'archipel reste toutefois en vigilance rouge jusqu'à ce soir, alors que le cyclone Dikiledi, rétrogradé en tempête tropicale, s'éloigne et se dirige désormais vers les côtes africaines. La population est appelée à rester confinée par précaution en raison des risques d'inondations, mais aussi de glissements de terrain. Écoutez Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui était l'invité de BFM TV.
C'est un phénomène particulièrement difficile, erratique, déstructuré. Et pour dire clairement les choses, Mayotte en a pris plein la gueule. Je reprends l'expression que me disait il y a un instant au téléphone le préfet sur place, qui est très mobilisé avec toutes ses équipes, parce que je veux que nos compatriotes, nos concitoyens, se rendent bien compte qu'après avoir été impactés par un cyclone qui a provoqué la plus grande catastrophe naturelle, pas seulement de Mayotte, mais de notre pays depuis la dernière guerre mondiale, aujourd'hui sur un terrain déjà très friable, très exposé, avec des Mahorais qui sont à la fois très courageux, mais très, très fatigués. Et la peur s'est emparée, évidemment, ces dernières heures de la population. L'impact a été violent. Il y a sans doute quelques blessés. On ne déplore pas. Au moment où je vous parle, je reste prudent de victimes.
Et sur place, la situation est donc toujours très difficile pour la population. Charles L'Huillier pour Europe 1.
Même si c'est encore à confirmer, les autorités affirment qu'il n'y a aucun décès pour l'instant. Mais tout de même, on compte à l'heure qu'il est 15 000 Mahorais hébergés dans les 79 centres d'urgence de l'île. Alors depuis hier soir, des crues, des inondations, des coulées de boue, jusqu'à un mètre d'eau dans certaines rues du sud du département. Et cela à cause des nombreuses rivières sorties de leur lit et des sols déjà saturés à cause de Chido. Ce soir, en préparation de la nuit, les habitants tentent d'écoper l'eau chez eux. Et même si le plus dur semble être passé, les prochaines heures sont attendues avec beaucoup d'appréhension. Les zones côtières sont sous haute surveillance. Le risque de submersion n'est pas écarté. Mayotte devra aussi encore faire face à des pluies orageuses demain. La calmie n'est prévue que pour mardi. La rentrée scolaire a donc été repoussée. Elle devrait avoir lieu dans une semaine. Mais vu le contexte, cette double déflagration Chido-Dikeledi en moins d'un mois, c'est pour l'instant toujours très hypothétique.
Et à Madagascar, les autorités déplorent au moins 3 morts et plus de 900 sinistrés. L'actualité en métropole maintenant, à 48 heures de la déclaration de politique générale de François Bayrou, Laurent Wauquiez met en garde le Premier ministre. La France est au bord de la ruine, selon le patron des députés de la droite républicaine. Il ne votera pas un budget avec de nouvelles hausses d'impôts. Il faut baisser la dépense publique et retrouver une solidité financière, dit-il dans les colonnes du Parisien. Quant aux agriculteurs, eux, ils seront reçus la nuit prochaine à Matignon. Et depuis près d'un an maintenant, le monde agricole est en crise, on l'a encore vu dernièrement. Mais alors, dans quel état d'esprit sont les agriculteurs et notamment de la coordination rurale à la veille de ce rendez-vous ? Alexis Bourdon pour Europe 1.
Eh bien, c'est la colère qui domine. Vous le disiez, depuis un an, les agriculteurs enchaînent les manifestations chaque semaine ou presque. Ils menacent de bloquer les grandes villes et de les affamer avec l'espoir de faire réagir le gouvernement. Et même si le monde paysan rêve d'obtenir des avancées concrètes, notamment du côté de la surtransposition des normes, cette réunion à Matignon demain ne devrait rien apporter, selon Lionel Candelon, président de la coordination rurale du Gers.
Je pense qu'on n'aura rien du tout. Là, dans l'immédiat, c'est clair. J'attends plus rien des politiques. Ça fait un an qu'ils nous disent que oui, ça va arriver, des promesses, en veux-tu, en voilà. On n'obtiendra rien de ce lundi. De toute façon, c'est même pas sûr que la semaine prochaine, le gouvernement soit encore en place. Donc, le jeu politique aujourd'hui, c'est la petite guéguerre. En fait, ça divise tout le monde. Il n'y a rien qui avance.
Pour le moment, aucune nouvelle mobilisation n'est programmée, mais cela pourrait avoir lieu d'ici un mois. Les élections pour élire les présidentes ou les présidents des chambres d'agriculture programmées le 1er février prochain devraient marquer une pause. Mais les agriculteurs préviennent, si d'ici les résultats, rien ne bouge, ils reprendront les manifestations.
Alexis Bourdon pour Europe 1. L'actualité politique marquée par une interview confession de Marine Le Pen. Elle se livre pour la première fois depuis le décès de son père dans les colonnes du JD News. Elle parle de Mayotte, d'Emmanuel Macron, mais aussi et surtout de sa relation avec Jean-Marie Le Pen. Jacques Serey pour Europe 1.
Oui, Marine Le Pen se livre et fait cette confidence. « Je ne me pardonnerai jamais cette décision ». La triple candidate à la présidentielle parle là de l'exclusion de son père du Front National en 2015. Je sais que cela lui a causé une immense douleur. Mais papa avait aussi un profond respect pour ceux qui prenaient des décisions. Papa, jamais Marine Le Pen n'avait utilisé ce terme dans une interview pour désigner son père, préférant Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. C'est fini, ça, justifie-t-elle. Il n'est plus dans mon esprit. L'homme politique, c'est mon père. Un père qui fut, selon elle, visionnaire sur de nombreux sujets. Et pas seulement l'immigration, un père qu'on nous avait toujours pris. La politique nous a tout pris. Elle nous a volé notre père, analyse-t-elle. Mais avec l'âge, il s'est recentré sur ce qui était vraiment important. Marie-Caroline, Yann et moi avions pour mon père un amour infini. Marine Le Pen réagit par ailleurs au communiqué de l'Élysée, selon lequel le rôle de Jean-Marie Le Pen relève désormais du jugement de l'histoire. Le jugement de l'histoire, souligne-t-elle, sera bien plus sévère pour Emmanuel Macron que pour Jean-Marie Le Pen.
Jacques Serey du service politique d'Europe 1. L'actualité en métropole, c'est aussi cet appel à témoins qui est en cours pour tenter de retrouver l'agresseur d'une joggeuse. Cette femme de 44 ans a été victime de coups de couteau au dos et à la gorge alors qu'elle courait sur le parcours santé de la commune de Vergès dans le Gard. Selon le parquet de Nîmes, l'auteur des faits n'a pas encore été identifié. Une agression qui suscite évidemment une vive émotion dans la commune.
Vous savez qu'on dit c'est juste à côté de la maison, on dit que ça peut être dangereux.
Ouais. Déjà deux fois dans le parc, ça craint quand même un peu.
Ça fait peur. Puis maintenant, on va faire attention et puis surtout, on va prévenir quand on part parce que comme quoi, ça peut arriver partout et on est très choqués de ce qui s'est passé. J'avais investi dans un tapis de course. On se dit quand même, il vaut mieux courir dans la nature. Voilà. Et puis bon, si on court pas très loin des maisons, tout ça, c'est... Mais en fait, non.
La victime de 44 ans a été grièvement blessée. Elle est actuellement dans un état stable. Il est 6h53, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Mickaël Juneski. On parlera évidemment du Dakar, du Vendée Globe, mais aussi de l'Open d'Australie de tennis.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits. Des viandes savoureuses, sans conservateur, pour un goût authentique et naturel. Faites le choix d'une boucherie qui met l'excellence au cœur de votre assiette. Boucherie Bobby, la saveur comme elle devrait être. Chez Simac Quincaillerie, à partir du 2 janvier, c'est le mois des prix choc. La scie circulaire Makita, diamètre 190 mm, est vendue 16 600 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc, prévente 2600 francs, sur place 3000 francs.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Excellent début de journée, la suite du journal avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Du tennis avec l'Open d'Australie qui a débuté hier à Melbourne. Fortune diverse pour les Français qui commençaient la compétition. Mickey Jeunesse.
Allez, on va commencer par les bonnes nouvelles. C'est passé notamment pour Hugo Humbert qui a dû s'employer avec la pluie, les interruptions, mais il a tout de même réussi à battre l'Italien Matteo Gigante 7-6, 7-5, 6-4. Victoire encore et joli retournement de situation pour Quentin Alis face à l'Australien Adam Welton après un match en 5-7, 4-6, 4-6, 6-4, 7-6, 7-5 en faveur du Français. C'est passé aussi pour Hugo Gaston face à l'Australien Omar Jassy qui est venu avec une wild card. Le tricolore s'impose en 4 manches. Les choses avaient idéalement commencé avec d'entrée de jeu la qualification pour le deuxième tour d'Arthur Fils, tombeur du Finlandais Otto Virtanen sur le Margaret Court en 4-7. Un bon bilan donc, mais en revanche, le vétéran Lucas Pouille, lui, n'a rien pu faire face à l'Allemand Alexander Zverev. Il s'est incliné contre la tête de série du numéro 2 du tournoi 6-4, 6-4, 6-4. Alors, il y aura encore des Français à suivre aujourd'hui. Arthur Rinderknecht face à l'Américain Frances Tiafoe, mais aussi Alexandre Muller, Arthur Cazot, Benjamin Bonzi, qui sera opposé au Belge David Goffin. On signalera enfin, toujours dans ce tableau, messieurs, que Novak Djokovic débutera aussi le tournoi ce soir sur la Rod Laver Arena. Il fera face à l'Américain Nishesh Bazavaredi.
Un point également sur le tableau féminin.
Oui, cette fois, les Françaises n'ont pas été à la fête le dimanche, lors de la première journée. Fin de partie pour Chloé Paquet, sortie par l'Espagnole Cristina Bucha. Élimination aussi dans le premier tour de Diane Paris, battue par la Croate Donna Vekic. Alors à suivre ce lundi, Léolia Jean-Jean contre la Britannique Jodie Burrage et surtout Caroline Garcia qui aura ce soir d'entrée de jeu un grand défi, la japonaise Naomi Osaka. On signalera qu'hier soir, la double tenante du titre, la Belarusse Arina Sabalenka, s'est qualifiée sans problème en battant l'Américaine Sloane Stephens 6-3, 6-2.
Du football avec la 17e journée de Ligue 1.
Oui, d'abord le RC Lens qui se relance avec un succès sur le Havre, 2-1. Strasbourg l'a emporté à Toulouse, 2-1. Encore une victoire à l'extérieur aujourd'hui. Angers qui est allé battre Montpellier, 3-1. La dernière affiche oppose le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne. Le coup d'envoi vient d'être donné. Paris qui est bien entendu, on le rappelle, leader du classement, les Stéphanois, eux, 16e.
Et puis, une grande affiche sur les pelouses espagnoles, c'est l'heure du Classico et c'est irrespirable.
Le duel des rois de retour en finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone contre le Real Madrid. Les Barcelonais avec Lewandowski, Yamal face aux Madrilènes, Mbappé titulaire et la pointe de l'attaque, Camavinga, Tchouaméni et Mendy. Pour ça, c'est pour le contingent français sous les couleurs de Madrid. Le coup d'envoi a été donné à 6h. Après l'ouverture du score, le Real avait tout de suite pris l'avantage avec un but signé Mbappé donc en seulement 5e minute, mais le Barça a répondu fort, 3 buts signés Yamal, Lewandowski sur pénalty et Rapinha juste avant la pause. À l'approche de la mi-temps, le FC Barcelone menait 3-1 face au Real.
Sur les terrains de rugby maintenant, on joue la suite de la 3e journée de Champions Cup.
Et une défaite de La Rochelle face aux Irlandais du Leinster sur le fil, 16-14. Les Rochelais qui se retrouvent 2e de la poule B derrière leurs adversaires du jour. Ça s'est mieux passé pour le RC Toulon qui a dominé les Anglais des Harlequins, 33-21. Enfin, l'AS Clermont s'est incliné chez les Anglais de Bath, 40-21.
L'actualité de la voile maintenant avec le dénouement qui approche pour les skippers en tête du Vendée Globe.
Ouais, suspense intense, record du tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance sur le point d'être battu. Rien désormais ne semble pouvoir écarter Charlie Dalin à bord de Massif d'une victoire finale. Il est à quelques 800 km de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. Derrière, dans son sillage, Johan Richom à bord de Paprec Arkea qui n'est plus en mesure de reprendre la tête pour seulement 260 km mètres d'écart avec le leader. Je rappelle que le dernier record sur le Vendée Globe datait de 2017. Armel Lecléache qui avait remporté l'épreuve en 74 jours. Un point sur le temps d'être un temps sur le point d'être pulvérisé. Nous en sommes actuellement à 63 jours, 7h 30 minutes de course.
Et on termine avec le Dakar 2025 et les pilotes qui disputaient la 7e étape.
Dans la catégorie moto, c'est l'Australien Daniel Sanders qui a décroché la victoire au guidon de sa KTM. Ça lui permet de consolider sa première position au général. Le Français Adrien Van Beveren, 5e du jour sur Honda, et quant à lui, 3e du général. Et dans la catégorie auto, le Brésilien Lucas Moraes a gagné l'étape du jour. Le Sud-Africain Henk Lategan sur Toyota est toujours leader du classement.
Merci Mickaël Juneski, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur le nord-est, la pointe nord, le ciel sera passagèrement nuageux avec éventuellement quelques ondées isolées. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. Le vent pour ce matin sera tout d'abord variable faible, puis des brises comprises entre 5 et 10 nœuds s'installeront sur la côte est et ouest. Cet après-midi, sur la chaîne, les nuages grossiront et donneront quelques bonnes averses qui déborderont sur les côtes. La côte nord-est, sur les fous et marées, localement sur le nord-ouest, des averses seront possibles. Ailleurs, le temps sera plutôt bien ensoleillé. Sur l'est, la pointe nord et les Loyautés, le vent sera variable faible. Ailleurs, il soufflera orienté sud-est autour des 5 à 10 nœuds, localement sur le sud-ouest, 10 à 15 nœuds. Les températures maximales sont stationnaires, proches des normales de saison, entre 29 degrés et localement jusqu'à 32 degrés, et ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.